Chapitre 35. Ted.
Ils sont partis. Ils sont partis et moi je n'ai rien vu venir. Après toutes les précautions prises ces dernières semaines, je n'ai pas perçu l'arrivée du grain de sable. Sharon m'a souvent répété que ma naïveté et ma confiance en l'être humain me perdraient. Ce qui vient de se produire lui donne raison. Lorsque tous deux sont revenus dans le van, Diego m'a expliqué qu'Anna venait de passer les 10 dernières minutes à vomir. Elle avait les yeux fermés, le visage crispé, la respiration lourde. Nous étions sur le point de redémarrer quand Anna s'est sentie mal de nouveau. Elle a poussé quelques gémissements, demandé à boire d'une voix blanche, mais nous n'avions rien. Diego m'a demandé si j'aurais la gentillesse d'aller acheter une bouteille d'eau pour Anna. Et moi, je les ai sous-estimés. Ils ont tous deux très bien joué leur scène lorsqu'ils m'ont supplié de laisser tourner le chauffage. Anna grelottait et la température étant proche de zéro, la requête m'a paru légitime. Je n'étais pas encore passée en caisse que le van s'éloignait à toute vitesse. Au fond, je pourrais continuer sans me soucier d'Anna. Mais cela fait des semaines que je prends des risques pour elle. La machine est désormais enclenchée, alors il est hors de question de renoncer. J'aurais pu finir ma vie comme tous les autres, sans rien révéler à quiconque des événements de 1975 et surtout pas à Anna. Mais voilà, il y a une gigantesque différence entre les autres et moi. Je n'ai jamais réussi à oublier ce jour où se sont côtoyés, en l'espace de quelques heures, la mort de celle dont j'étais tombé éperdument amoureux et le tournant le plus significatif de mon destin. Tout au long de ma carrière d'astronaute, l'image de Julie est revenue me hanter, parce que je l'aimais, parce que j'ai protégé le secret défense entourant les circonstances de son décès, parce que sa mémoire a été salie auprès de sa fille, mais aussi parce que j'ai toujours pensé que si elle n'était pas morte ce jour-là, elle aurait été nommée à ma place. Que s'il n'y avait pas eu cette version officielle à garantir, la NASA ne m'aurait sans doute pas sélectionnée. Je sais bien que j'avais les qualités nécessaires, comme tous les candidats à ce stade du recrutement. Mais Julie était solaire, brillante, d'une intelligence rare. Elle aurait fait une parfaite première américaine dans l'espace. Alors depuis toutes ces années, je ne cesse de me répéter que je suis un usurpateur. J'ai eu 46 ans pour prouver ma valeur. 46 ans au cours desquels j'ai enchaîné avec succès les missions, obtenu les plus grandes reconnaissances. S'il y avait eu le moindre doute sur mes capacités, on m'aurait trouvé un poste confortable afin de me garder sous contrôle. Mais on ne m'aurait pas envoyé dans l'espace. Je sais cela. Et malgré tout, j'ai toujours chevillé au corps ce syndrome de l'imposteur. Cette ombre qui plane au-dessus de moi. L'ombre de Julie. Je suis un éternel célibataire et j'ai une affection particulière pour l'Europe. Aussi, depuis que je ne fais plus partie des astronautes qui volent encore, j'apprécie les missions détachées au sein de l'Agence européenne. Lorsqu'il y a quelques mois, l'ESA m'a demandé de me prêter au jeu des discussions informelles avec leurs apprentis astronautes, j'ai accepté de participer à 5 journées sur site à Hambourg. J'aurais pu choisir 5 jours au hasard, mais voilà, j'aime les équipes multiculturelles. Alors j'ai souhaité choisir des journées présentant une grande diversité d'origine des postulants. C'est dans cette optique que j'ai consulté la liste des candidats. Lorsque j'ai vu ton nom, Anna, j'ai cru à un homonyme, mais j'ai tout de même voulu en avoir le cœur net. 3 femmes sont apparues dans le moteur de recherche. La première était morte en 2012 à l'âge de 84 ans. La deuxième se prénommait en réalité Anne-Marie. Et la troisième était médecin à Lille-sur-la-Sorgue. Sur le site de prise de rendez-vous, je suis tombée sur ta photo. L'émotion m'a submergée. Anna, ma chère Anna, si tu savais comme tu ressembles à ta mère, si tu savais comme ta mère m'a parlé de toi, comme je vous ai envié, ton père et toi, d'avoir su si bien conquérir le cœur de cette femme extraordinaire, cette Américaine installée dans le sud de la France par amour, mais qui n'avait pas pu résister à l'appel de l'espace. Encouragée et soutenue par ton père, elle était partie tenter sa chance à Houston pour la session 1975 de recrutement de la NASA. Elle me racontait ton père, sa petite Anna qui lui manquait, tandis que mon âme se brisait, moi qui brûlais d'amour pour elle. Jamais je n'ai cherché à savoir ce que tu étais devenu, toi, l'enfant de Julie. J'avais trop peur d'avoir mal, trop peur de ne pas savoir mentir à cette petite fille. J'avais raison d'avoir peur. Une fois passé le choc de te découvrir dans cette liste de candidats, une question fondamentale a déferlé. Pourquoi étais-tu là? Je n'ai pas cru à une simple coïncidence. Pour moi, il n'y avait que deux possibilités. La première, l'un des témoins du décès de ta mère t'avait parlé, avant de passer lui-même l'arme à gauche. Dans ce cas, ta démarche avait pour but de te rapprocher de nous, pas à pas, afin de faire toute la lumière sur la mort de ta mère, de la réhabiliter sans doute, et peut-être de trouver le moyen de te venger. Sans te connaître, j'ai imaginé une sorte de Kill Bill version astronaute qui m'aurait mis en danger. La seconde, personne n'avait parlé, tu ne savais rien des circonstances réelles du décès de ta mère, mais tu étais là pour aller au bout de son parcours, terminer ce qu'elle n'avait pas pu terminer, boucler la boucle. Dans ce cas, c'était toi qui courais un grave danger. Il aurait suffi que James ou Sharon te remarquent à une quelconque étape du processus. Sharon, surtout, qui serait présente à Hambourg et Cologne, je le savais. Sharon, qui avait, elle aussi, rejoint l'Europe récemment pour enfin prendre le poste dont elle rêvait depuis toujours. Et James, dont la carrière au sein de la CIA s'était construite sur sa capacité à étouffer les scandales avant qu'ils n'éclatent. Voilà pourquoi j'ai tenté de t'empêcher de venir à Hambourg. Je ne pouvais évidemment pas te contacter directement. J'ai donc dû avancer masqué. Mais mon mail anonyme n'a pas eu l'effet escompté, et tu es venu quand même. Au fond, c'était ce que j'espérais, je crois. Te rencontrer, revoir Julie à travers toi. Alors tant pis, ou tant mieux. C'est au matin de mon quatrième jour à Hambourg que tu apparais. Mon cœur se met à battre si fort que j'ai envie de t'approcher dès le premier coffee break. Sharon est en déplacement, la voie est libre. Mais tu es masqué et concentré, te déranger serait cavalier, et probablement assez étrange. Je dois patienter jusqu'à la pause déjeuner. Pendant l'heure qui suit, alors que j'attends la fin de l'épreuve afin d'emmener les candidats au self comme je m'y suis engagé, tu ne quittes pas mes pensées. Dans la file d'attente, je me débrouille pour me retrouver à côté de toi et j'engage la conversation. Tandis que j'ôte mon masque et que tu fais de même, je ne trouve plus mes mots. Je crois défaillir. En une seconde, je me retrouve transporté des décennies en arrière. Les images affleurent, celles de l'accident, et puis les autres, celles du sourire de ta mère, de ses yeux si bleus, de sa chevelure blonde ramenée en chignon négligé, comme toi. Puis tu te mets à parler, et je peine à contenir mon émotion. Je détourne le regard, fais semblant de m'intéresser au menu, mais je n'entends que tes intonations, ton timbre, ta voix, si proche de la sienne. Je voudrais te dire tellement de choses, Anna. Mais je me contente de balbutier un bonjour maladroit qui doit détonner avec mon assurance habituelle. À Hambourg, j'ai acquis la certitude que tu n'avais pas d'intention malveillante à mon égard. Après Hambourg, je n'ai pas réussi à passer à autre chose. Alors j'ai cherché un moyen de te revoir. Je n'y pouvais rien. Julie était réapparue dans ma vie sous les traits de sa fille. C'était un signe. Je ne crois pas en Dieu. Mais je crois à l'idée que si les chemins se rejoignent, c'est qu'il y a une bonne raison. Je savais que je prenais des risques, mais ces risques me semblaient mesurés. Il serait toujours temps de m'éloigner si tu étais sélectionné pour l'étape suivante. Dès le déjeuner d'Hambourg, Nabila a évoqué le groupe des extraordinaires. Et j'ai compris que cette jeune Marseillaise à l'enthousiasme fédérateur serait ma clé. Aussi ai-je gardé contact avec elle et réagi très vite en appelant Diego lorsqu'elle m'a parlé de votre projet de séjour d'entraînement à Tenerife. Bien sûr, si tu n'avais pas fait partie de l'aventure, je n'aurais sans doute pas proposé cette participation. Mais ensuite, je dois dire que je me suis sacrément pris au jeu. Je suis un passionné, j'aime transmettre. Il faut avouer que votre groupe est formidablement attachant. Plus les jours avançaient, Plus j'en apprenais sur toi, plus je comprenais que je m'étais trompée sur toute la ligne. Aucun de mes deux scénarios n'était le bon. Tu n'étais là ni pour te venger, ni pour terminer ce que ta mère avait commencé, puisque tu n'avais aucune idée du parcours de ta mère au sein de la NASA. Lors de l'ascension du TID, lorsque Bérénice te demandait comment tu en étais arrivée à te lancer dans la course à l'espace, tu as raconté. La découverte de la photo de ta mère, férue d'astrologie, dans ce grand atlas des étoiles, bien planqué au fond de la bibliothèque paternelle, et cette fascination qui a grandi au fil du temps. En posant quelques questions innocentes, j'ai sondé l'étendue des zones d'ombre et compris qu'il n'y en avait pas. Pour toi, ta mère que tu as très peu connue était une originale et prise d'ésotérisme qui s'est suicidée lors d'un voyage dans son pays natal, a été incinérée, cendres dispersées, pas de sépulture, rien. Fin de l'histoire. Ton père ne connaît pas les circonstances véritables du décès de Julie. La NASA lui a transmis la fausse lettre évoquant une trop forte pression lors du processus de sélection. Il a eu accès à l'autopsie parlant de suicide par noyade, au compte-rendu officiel d'enquête affirmant qu'aucun doute n'était permis. Je ne sais pas pour quelle raison il t'a caché le parcours scientifique de ta mère. Il te faudra sans doute le lui demander. Mais je suis bien placée pour savoir que les chemins du deuil sont parfois imprévisibles. Et maintenant ? Cela fait plusieurs semaines que je me prépare. J'ai hésité longtemps. Ce qui a finalement emporté ma décision, c'est cette affirmation sortie de ta bouche qui m'a tordu le ventre. Cette affirmation selon laquelle ta mère ne t'aimait pas, en tout cas pas suffisamment pour rester en vie à tes côtés. Au début, j'ai cru qu'il s'agissait d'une posture, mais quand Nabila t'a charrié et insisté, l'affirmation est restée. Dure, terrible et tellement fausse. Rien ne pourrait être plus faux. À cet instant, j'ai compris que l'image de Julie était brisée dans ton esprit et probablement dans celui de ton père. Or, l'idée que personne d'autre que moi ne se souvienne de la jeune femme merveilleuse qu'elle était, que personne ne puisse témoigner qu'elle avait tout pour devenir la première astronaute américaine. Tout cela résonne aujourd'hui comme une injustice insupportable. Depuis que je t'ai rencontrée, je ne cesse de me dire que je dois trouver un moyen de réparer. Réparer ce dont je ne suis pas responsable, mais dont je me suis rendue complice. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Je n'ai plus grand-chose à perdre. Je pourrais faire fi du secret défense, assumer des conséquences qui pourraient aller jusqu'à la casse-prison, ou pire, je n'ai pas peur. Mais je ne veux prendre aucun risque te concernant, Anna. Depuis que Sharon est venue à Tenerife, je nous sais surveiller. Alors j'avance mes pions avec précaution. Certains étaient en place depuis des années, je ne suis pas née de la dernière pluie. J'ai eu une conversation avec Sharon il y a quelques jours, au cours de laquelle je lui ai assuré que je ne ferai jamais rien de compromettant, que j'avais cessé tout contact avec toi. J'ai d'ailleurs pris grand soin de n'utiliser que des lignes fixes de lieux anonymes pour te contacter ces dernières semaines. Je ne sais pas si Sharon m'a cru, mais j'ai compris qu'elle n'avait encore rien dit à James. Lorsque tu m'as appelé il y a quelques jours pour me parler de ton idée d'expérience de l'apesanteur, je savais qu'une telle escapade déclencherait une réaction. Mais je savais aussi que Sharon et James auraient besoin de plus de 24 heures pour organiser quoi que ce soit. D'autant que nous ne sommes pas sur le sol américain, ce qui complique les choses pour eux. J'avais donc prévu d'enclencher la phase finale de mon plan tout de suite après ce vol 0G, qui constituerait une formidable conclusion. Notre expédition allemande a différé le tout de quelques heures, et puis soudain tu t'es enfui. Pourquoi ? Sharon t'a-t-elle envoyé un message t'intimant de te méfier de moi ? As-tu découvert quelque chose sur moi qui t'a effrayé ? Peu importe au fond. L'essentiel est d'agir. Car nous n'avons plus beaucoup de temps avant que les mécanismes de protection du secret défense ne se mettent en branle. Alors dans cette nuit noire allemande, je me dirige vers la caissière de la station-service, lui tend 20 euros afin qu'elle me laisse passer un coup de fil depuis son téléphone portable, ce qu'elle accepte avec joie. Je ne peux pas t'appeler, toi. Ton téléphone est surveillé. Diego ne répond pas, je m'y attendais. J'envoie un SMS. Si Anna veut connaître la vérité sur sa mère, Rendez-vous sous l'horloge de la gare centrale de Cologne à 11 heures. Ensuite, il sera trop tard.